les deux mots en français et les deux mots en anglais.
Et il faut que j'aille voir sur un dictionnaire particulier ou ça?
C'est que sur en ligne, il y a ce qu'on appelle le Trésor de la langue française, qui est un très bon dictionnaire parce qu'ils ont, dans le fond, fusionné plusieurs dictionnaires comme le Littré, le Robert et puis le Larousse. Alors, tu as un bon résumé d'une bonne partie des sens dedans. Et puis, on peut faire copier-coller, c'est moins long que de tout retaper. Ou on peut dire, je vais tout retaper ou tout écrire à la main, puis ça va m'aider à m'en souvenir plus. Chacun fonctionne comme il veut. Moi, j'ai une mémoire visuelle, il faut que j'aie vu. J'ai pas besoin d'écrire ni d'entendre. Il y en a qu'il faut qu'ils entendent, d'autres qu'il faut qu'ils réécrivent. Tu vas découvrir avec le temps quelle est la meilleure manière pour toi de...
J'ai surtout besoin de voir pour m'en souvenir.
OK. Alors, que ce soit dans un livre ou sur l'écran, tu choisis le... Tu choisis ton arme. OK?
Alors, juste être certain que j'ai bien compris, ça va regarder la définition des mots philosophe et philosophie dans un dictionnaire en français et un autre en anglais, dans le trésor de la langue française pour
le français,
puis n'importe quelle autre langue.
N'importe quelle autre, l'anglais c'est secondaire, mais c'est juste pour voir un peu de différence parce que j'ai vérifié dans un ou l'autre, il y a des... Oh, tiens, tu dis en français, on l'a pas celle-là.
Okay. Vraiment juste regarder toutes les différences. Puis,
les différences, c'est ça. Puis nous présenter les différences. Puis est-ce qu'il y a quelque chose comme une idée commune qui aurait fait tenir ensemble toutes ces définitions-là? Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il y a quelque chose, il faudra voir. Moi, je ne sais jamais, a priori. Je vais refaire l'exercice moi-même parce que même si je connais cette page-là pas mal par cœur, j'aime bien me remettre les choses en tête avant qu'on se voit. Alors, sur le premier point, c'est marqué introduction, introduire et initier. Alors, je veux jouer sur deux mots, parce que ça va donner deux aspects de ce que je veux qu'on fasse ensemble, puis ce que je pense que la philosophie a à voir. Alors, si je te demande, c'est quoi une introduction? C'est quoi le... Quelle est l'action qui correspond au verbe introduire?
Ça peut être de parler à une personne pour lui expliquer ce qui s'en vient dans les prochains cours qu'on va voir, dans les prochaines activités qu'on va faire.
Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient et je t'informe. Il y aura des textes à lire, il y aura des exercices à faire, il y aura des questions auxquelles répondre, il y aura des questions à formuler. Tu sais désormais qu'il faut faire ça et on va te demander de faire ça en français courant, des fois par écrit ou à l'oral, etc., etc. Donc, je te donne de l'information. Je t'introduis à ce qui s'en vient. Mais si on essaie d'écouter ce que le mot « introduire » veut dire, à partir du latin ou même du français, introduire, c'est conduire quelqu'un à l'intérieur.
Non, dans ce cas, c'est à l'intérieur de la matière.
Comme à l'intérieur de la manière, mais je pourrais t'introduire dans une pièce. Alors, je te fais rentrer dans une pièce, puis je te dis, regarde, il y a trois fenêtres, il y a deux chaises, le lavabo est là, la toilette est là, le lit est là, et puis, t'es introduite. Ou on peut t'introduire dans un groupe. Alors, on arrive ensemble dans un groupe, ils ne te connaissent pas. Je dis, voici Mademoiselle Élodie Saint-Amour, étudiante au Collège universitaire dominicain, etc., etc., etc. Je te présente un tel. Je remets introduite à ces gens-là, ce qui fait que tu peux échanger leur carte d'affaires, tu peux les appeler, parce que vous faites partie du même groupe. OK? Mais tu as été introduite. Alors, ça peut être dans un lieu, une matière... ou un groupe. Mais c'est toujours de l'ordre de la transmission d'informations, d'indications pour se repérer. Pas plus. On introduit quelqu'un, on conduit quelqu'un, puis c'est comme si je te disais, je vais t'introduire à la gare d'autobus, je t'indique comment t'y rendre, puis tu vas y arriver, puis tu vas pouvoir rentrer dans la gare d'autobus. Ça serait quoi? Ça, c'est d'introduire. Initier quelqu'un à quelque chose, ça serait quoi?
Il y a encore une question de présenter les différents aspects.
Mm-hmm.
Présenter ce qui s'en vient dans les prochains cours, les prochaines activités. Mm-hmm. Commencer à lui montrer comment les faire.
OK, il y a du faire, en effet, il y a du faire. C'est pas juste l'information, il y a du faire. OK. As-tu des frères ou des sœurs plus vieux que toi?
Non, ils sont tous plus jeunes que moi.
Ils sont tous plus jeunes que toi. OK. Admettons que Joël, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Admettons que Joël, on l'envoyait, je sais pas, dans la faculté de génie à l'Université d'Ottawa. Pour faculté de génie. Mais on envoie Joël là-bas, et la première semaine de cours, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une initiation. Habituellement, tu as déjà entendu parler des initiations à l'université?
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe en ensemble? Qu'est-ce qui va arriver au pauvre Joël?
Ils vont lui apprendre les principes de base.
De base, OK. Oui, bonjour. Le collège était très intéressé. M. Andouhar m'avait mis au courant de ce projet, d'autant plus que j'avais bien connu les travaux de son mentor et son maître. Est-ce que je pourrais vous rappeler, madame, parce que je suis en réunion pour le moment, et on pourrait continuer la discussion là-dessus. Alors, votre numéro de téléphone serait 613... 884-9004. Je vous rappelle demain au plus tard et on discute de la chose. Au plaisir de vous avoir entendu. Maxime Allard. Au revoir. Quelqu'un qui veut faire un don de livre, je ne veux pas être contre ça. N'est-ce pas là? Joël, ils vont lui donner un gros de ces choses-là, mais ce qui va faire le cœur de l'initiation, c'est dans le fond, le pauvre Joël, ils vont lui demander prendre une pomme dans un bac d'eau, avec ses dents, les mains derrière le dos, puis aller porter ça ailleurs, ils vont le faire se rouler dans la boue, ils vont le faire marcher avec toutes sortes de plumes sur le corps, sur le campus de l'Université d'Ottawa. L'idée de l'initiation, c'est on te fait subir quelque chose, okay, pour que désormais tu crois que tu fais vraiment partie d'un groupe, d'une activité, d'une institution. Okay. Donc, c'est pas seulement de la transmission d'informations, mais c'est vraiment existentiellement de faire vivre quelque chose pour que tu te sentes à l'aise dans le nouveau groupe, dans la nouvelle discipline et tout. Mais ce qu'ils te font faire pour ça, t'es pas toujours sûr de voir le lien entre ça puis le génie ou la philosophie dans notre cas. Okay? D'ailleurs, ça donne lieu, ces initiations-là, à toutes sortes de choses un peu troublantes. Du point de vue social, moins troublant ou religieux, par exemple le baptême chez les chrétiens, c'est une initiation. Oui, ils vont vous dire des choses sur le christianisme, mais le baptême comme tel, c'est qu'il te plonge dans l'eau. 1, 2, 3. Et on fait ça 3 fois. tu manques de souffle, etc., etc. C'est très, très drôle. Pour ceux qui font faire ça, ceux qui le subissent, mais l'idée, c'est l'initiation, c'est t'es baptisé, on dit dans la mort et la résurrection du Christ, on veut-tu comprendre c'est quoi la mort? Alors, ben, tu fais pas ça parce que là, tu vas avoir de l'eau dans les poumons, c'est pas mieux, mais tu sors, puis la vie. Trois fois pour la Trinité, machin et tout. Mais, tu vois, l'initiation, ils vont te donner de l'information, mais ils vont te faire vivre quelque chose. OK? Ben, la philosophie, on peut voir ça de deux manières. On peut voir ça comme tout simplement ajouter dans notre connaissance de l'information sur un domaine particulier, qui serait clair et précis, qui serait le domaine de la philo, et tout, puis on transmet des bonnes informations, puis tu peux répéter les bonnes informations, et puis tu sais qu'Aristote est venu après Platon, puis que Plotin est venu après Aristote, puis t'as Descartes qui vient après ce monde-là, puis t'as Derrida qui est mort il y a quelques années, puis qui vient après tout ce monde-là, puis qui les a toutes lues. Alors tu peux nous donner de l'information, tu peux introduire quelqu'un après à la philo en disant, bon, il y a ces bonhommes-là, ils ont pensé telle chose, et puis... ouais, ils l'ont fait de telle manière et tout, puis il y a un tel autre qui a fait telle autre chose. Donc, tu as des fiches avec de l'information, tu peux après ça, tu l'apprends puis tu le transmets. Alors, tu es introduite pour pouvoir en introduire d'autres. Alors, tu es introduite à une série de questions avec des réponses, avec des protocoles pour répondre, et puis eux autres, ils faisaient de telle manière parce qu'il faisait chaud, ils pouvaient faire ça en marchant dans le jardin. Je ne suis pas sûr que cet après-midi, si on disait on va aller marcher dans le jardin, pour faire ce qu'on est en train de faire, que ce soit aussi agréable. Alors, c'est pas pire, mais tu sais, s'il mouillait et tout, puis il fait fret, en Grèce, ça se fait bien dans un jardin l'hiver. Ici, c'est pas pareil. Okay? C'est pas la même chose de le faire à trois comme ça, puis c'était assise dans un groupe, dans une classe avec 250 étudiants, puis le prof qui donne son information en regardant le plafond parce qu'il connaît personne, puis il n'y a personne à connaître là. Il va les voir pendant 3 heures, 15 semaines, puis après ça, pff, on vous reverra plus jamais, ça ne m'intéresse pas. Mais il transmet l'information comme il faut. Alors que l'initiation, c'est tout à fait autre chose. C'est dire la philo, ce ne serait pas juste des questions avec des réponses. Ce n'est pas juste de l'information qu'on peut donner à propos de M. Aristote, qui a écrit tel livre, telle année, sur tout ça, puis là-dedans, il dit ça. Non. La philo, ça pose des questions qui ont à voir avec toi, avec ta vie, avec ta présence dans le monde, et à la fois pour en faire puis comprendre ce qui est là, tu vas passer à travers des transformations. Ça va mettre en doute des choses que tu crois, des manières de faire, ça va te forcer à essayer de trouver des arguments pour dire ben, « je pense que c'est comme ça, mais pourquoi ?» Puis tu vas te retrouver devant quelque chose qui te surprend, qui est paradoxal, puis là, tu vas dire « Ouais, mais je veux savoir, là! » Alors, tu vois, l'initiation, c'est pas une... L'introduction, c'est comme une perspective « OK, je te donne un livre, apprends ça par cœur, répète-le, puis t'es correct pour le reste de ta vie. » Alors que l'initiation, c'est « Il y a des choses que je vis, il y a des questions que je porte, puis que je vois que d'autres portent, et puis c'est important pour ma vie, puis je veux comprendre. » Puis je suis prête à laisser tomber des choses, puis à moi-même, pas juste laisser tomber des idées, mais changer des comportements éventuellement. Parce que j'ai maintenant telle autre idée. Okay? Si en philo, par exemple, je sais pas, je connais pas ta vie ni rien, ni celle de ta famille, mais si on travaillait, je sais pas moi, sur les droits des animaux, et puis on travaillait sur la souffrance des animaux dans les industries de production de viande et tout... Et puis, tu trouves ça dégoûtant, puis c'est injustifiable, je ne veux pas participer à ça, je ne mange plus de viande. C'est plus juste à dire, « Monsieur Peter Singer, un grand philosophe du 20e siècle, a tel argument à propos des droits des animaux. » Dans les deux cas, tu vas avoir la même information. Mais dans un cas, ça va être, « Tiens, il fait soleil aujourd'hui. Ah, il pleut demain. »
Pas aussi personnel.
C'est pas personnalisé et c'est pas existentiel. Alors, l'initiation, ça passe plus par qui je suis, ce que je vis, ce que je désire vivre, puis découvrir ça, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Alors, dans ce qu'on propose, Joël et moi, il va y avoir plein d'informations. Mais on était mal formés en philo, lui puis moi. On croit tous les deux que la philo, c'est quelque chose qui a à voir avec la vie. Puis pas la vie en général, mais avec notre vie, notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière d'entrer en interaction avec les gens. Alors, les questions de philosophe, la façon dont on va aborder les choses, oui, tu vas avoir de l'information extrêmement précise, puis si tu veux avoir de la bibliographie pour lire, parce que tu es insomniaque, on peut te donner des longues, longues bibliographies sur tous les sujets. Puis tu peux tout à lire ça, puis tu peux tout savoir ça, tu vas être hyper savante. Bon, on ne fera pas tout ça en premier cours d'introduction, là, mais l'idée, c'est que tout ça existe. Alors, de l'information, il y en a en masse. On va en t'en donner, tu n'as pas à craindre. Mais cette information-là, on va essayer de te la donner pour que tu te l'appropries personnellement, puis que ça entre en résonance, en écho, avec des choses de ta vie. Puis de ce que tu vois dans le monde, puis tes opinions sur le monde, puis tes façons d'agir. C'est pour ça que je te demandais tantôt, est-ce que tu es intéressé à quelque chose? Puis lorsque tu m'as dit littérature, c'est génial, parce que les romans, la littérature, la poésie, demande au monsieur, il en écrit de la poésie en plus, lui. On sait que ça vient chercher nous, ça vient nous chercher. Non seulement ça peut nous émouvoir, mais ça nous fait penser. Il y a un livre en anglais, je pense que traduit maintenant, en anglais, ça s'appelle Love's Knowledge. En français, ça doit être la connaissance de l'amour. C'est par une madame philosophe moderne qui s'appelle Martha Nussbaum. Et elle dit, si on veut vraiment, lorsqu'on a 15, 16, 17, 18 ans, puis même un peu plus, puis on veut vraiment réfléchir sur ce que c'est que l'amour, un des endroits intéressants et importants pour découvrir ça, c'est voir comment des hommes et des femmes ont mis ça en roman, comment ils ont mis ça en littérature. Et tu découvres, ça te donne des mots pour dire ce que tu as vécu, ça te permet de réfléchir, de dire, oui, mais non, c'est pas vraiment ça, là, ça peut pas être juste ça, là, ça va pas, là. Tu lis un roman de Sartre sur l'amour, puis t'as l'impression que l'amour, c'est toute une stratégie pour dominer l'autre, puis l'écraser, puis parce que t'as peur du regard de l'autre qui va te chosifier, c'est fascinant, ça, c'est beau, Sartre. On va peut-être le voir éventuellement, ce qu'on arrivera dans certains aspects de quoi ça parle les philosophes, mais tu sais, tu lis ça, puis Sartre, c'est bien écrit, ses romans et tout, puis là, tu dis, non! Je veux pas. OK, tu veux pas? Pourquoi? Donc, tu fais appel à une autre expérience. À ton âge, tu n'as peut-être encore pas tout émo pour le dire. Peut-être que Madame Lafayette ou que tel autre poète, Baudelaire, par exemple, qui parle de l'amour, tu vas chercher ça, puis tu dis, cherche à dire puis à comprendre quelque chose de même plutôt que ça. Donc, Ça fait partie. Toi, c'est pas juste une recherche d'information. Tu cherches à trouver des mots, une manière de questionner, puis d'argumenter, puis de trouver une réponse en te servant de... Je révèle ton secret à Joël. Là. Elle aime la littérature de madame, puis elle aime autant les romans que la poésie, alors il va s'en donner à cœur. Joël, fais-toi-en. Ces poètes sont peut-être obscurs, mais c'est pas grave, c'est des poètes. Mais tu vois, c'est la différence entre introduction puis initiation. Puis la façon dont on fonctionne au collège, c'est on passe de l'un à l'autre. On donne de l'information pour aider à initier, puis on initie pour essayer de faire comprendre l'information. Puis ça fait comme si on le dit de manière hyper sérieuse, c'est un cercle herméneutique ou une dialectique. Ça paraît bien dans un salon, alors tu pourras dire à ton père, j'ai entendu parler cet après-midi du cercle herméneutique entre l'initiation et l'introduction, et vice-versa. C'est 75 pages de texte chez Ricoeur, résumé en 10 minutes, là. Mais c'est ça qu'on veut faire. On croit ici que pour entrer en philo, c'est pas juste entrer dans une pièce puis être capable de décrire la pièce, c'est d'entrer dans une pièce pour y vivre. Alors, tu vas passer par les deux. C'est vraiment pour ça. De l'information pour mieux comprendre de l'intérieur, ayant mieux compris de l'intérieur, ça permet de générer puis de la nouvelle information, puis de peut-être mieux d'affiner ton idée et puis tes choses. Ça va?
Oui, tout à fait. Parce que depuis tout le temps que je prends des cours d'éthique et de philosophie, une idée qu'on voit souvent, c'est garder l'ouverture d'esprit pour toutes les nouvelles idées, puis d'être capable de défendre ses propres idées à l'adaptement, tout ça. Alors, ça complète et ça vient continuer d'approfondir toute cette idée-là.
Parce que, tu vois, pour le prendre en termes de langage-argument, le point 4 qui s'appelle « qui parle à qui », qui parle, quel langage et argument, lui, institution de la parole, ben on va travailler sur la rhétorique. Puis, la rhétorique, c'est quoi? C'est se rendre compte, bon, il y a la dialectique où on a juste des arguments sur des choses nécessaires, mais tout dans la vie, c'est ce qu'on a à réfléchir, n'est pas nécessairement de l'ordre de la nécessité ontologique ou mathématique ou existentielle. Il y a des choses qui sont juste possibles. C'est possible de prendre un cours à ton âge dans un programme comme Longueur d'avance. Puis on peut voir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu peux très très bien vivre ta vie sans faire ce cours-là. Mais on peut réfléchir puis montrer que ça peut être bon. Et puis, ben, mais pour montrer que c'est bon, comme ce n'est pas nécessaire, comme 2 plus 2 égale 4 en base 10, puis là, je n'ai pas besoin de t'accepter ou pas, là, je veux dire. Si tu me dis, non, je ne veux pas que 2 plus 2 égale 4 en base 10, je veux dire, ma fille, c'est 20 de valeur, mais va t'enfermer dans le fond de ton sous-sol, puis sors-en pas, parce que dans le reste du monde, 2 plus 2 égale 4 en base 10 va fonctionner, puis l'économie, les relations sociales, la physique, ben, tout passe par là. Mais si c'est, on va essayer de faire comprendre que faire de la philo comme ça, à longueur d'avance, à ton âge, en dehors des programmes normaux, c'est bon. Et tout, ben, il va falloir faire appel à ton expérience. On n'argumente pas de la même manière. On ne définit pas les choses de la même chose. Mais il faut encore qu'il y ait de la logique, puis qu'on puisse articuler ces choses-là. Alors, là encore, c'est information, introduction, puis initiation. OK?
Tout à fait.
L'autre point pour aujourd'hui, puis après ça, on va probablement donner congé à Joël, puis ça s'appelle 3 activités. Donc, il y a des philosophes qui ont des questions puis des idées. Ils parlent de sujets, puis ils ont des débats, encore aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer aujourd'hui juste avec l'idée de questions, mais on va faire les prochaines fois un parcours historique, parce qu'ils n'ont pas toujours parlé de la même chose. Et puis, il y a des choses dont on débat beaucoup aujourd'hui, puis d'autres dont on débat peut-être plus, puis il faudrait peut-être en débattre, en tout cas. On verra ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est même pas l'idée d'idée des philosophes, c'est l'idée de la question. Alors, qu'est-ce qu'une question?
Une question, ça peut être un sujet ou une idée sur laquelle il y a quelque chose qu'on n'est pas certain, donc on se pose des questions dessus pour en savoir plus.
Oui, alors là tu me dis qu'on se pose des questions, mais ça va être quoi se poser une question?
Rechercher de l'information. En regardant différents ouvrages, en demandant à des personnes.
OK. Là, c'est bien. Je cherche juste un petit paragraphe qu'on va travailler ensemble. Et puis tout le monde pense que je suis fou lorsque je donne ça en la première journée de la philosophie, mais c'est pas grave. J'arrive à vivre avec les gens qui pensent que je suis fou. Un instant. J'arrive. C'est tiré d'un texte d'un monsieur, un philosophe du 20e siècle, qui s'appelle M. Heidegger. H-E-I-D-E-G-G-E-R. Dans un livre qui s'appelle « Être étant », c'est le début du deuxième paragraphe. Il ne faut pas m'en vouloir de te faire lire ça la première journée. Mais c'est pour moi en français, enfin en français, en allemand. Tu vas voir que ça ne fait pas très français comme traduction de l'allemand, mais bon. C'est en 20 lignes le condensé de ce qui est en jeu dans une question, tel que les philosophes pensent que c'est qu'une question. Alors, je lis le paragraphe sans rire, sans arrêter, Puis après ça, on va revenir morceau par morceau. Puis peut-être que la prochaine fois, Joël pourrait travailler phrase après phrase le texte avec toi, juste pour voir que les philosophes fonctionnent comme ça. Ils donnent des affaires extrêmement denses, comme s'ils prenaient une boule de papier, puis ils la frippaient, puis ils la transformaient dans une boule extrêmement serrée. Et puis pour comprendre, ben, il faut déplier lentement. C'est parce que si tu vas trop vite, tu vas déchirer ta page. Donc, il faut déplier lentement, phrase après phrase, mot après mot. Puis éventuellement, on a une belle page, puis tout est clair. Au point de départ, lorsqu'on entend la chose, on fait... Alors, voici le texte. Je pourrais t'envoyer le, en PDF. Non, je peux même te l'envoyer. On va faire les choses comme il faut dès le point de départ. Alors, ton adresse courriel, c'est quoi?
Ballerine 9.
Oui. L-L-E-R-I-N. Est-ce que 9 comme le chiffre?
Oui, 9 comme le chiffre. @gmail.com.
Donc, tu fais du ballet ou tu, c'est juste que
j'en t'aimes? Faisais quand j'ai choisi cette adresse. Je n'en fais plus maintenant.
Ah, OK. OK, 2 minutes. Redescends. Je vais juste m'assurer que tu as juste le... Alors, tu as le texte qui va t'être envoyé. Bon, il y a peut-être des erreurs de frappe, là, mais rien n'est parfait. Valorine, Manœuvre, est-ce qu'il part? Alors, je retourne au texte. La question du sens de l'être doit être posée. Dans son livre, ça porte sur l'être, là, mais ça peut être ce qui fait soleil, c'est pareil. Si elle en est, si elle est une, ou plutôt la question fondamentale, alors un tel questionner, le verbe, requiert une transparence appropriée. Par suite, il nous faut élucider ce qui appartient en général à une question, afin de rendre visible, à partir de là, la question de l'être comme question en signe. Donc, il y a la question de l'être. OK, l'être, on va y travailler, mais il faudrait commencer par se poser la question, c'est quoi la question? Alors, voici. C'est là où ça commence, c'est indigeste, mais c'est très très bon. Tout questionner est un chercher. Tout chercher reçoit son orientation préalable de ce qui est cherché. Le questionner est un chercher connaissant de l'étant, son être que et son être ainsi. Le chercher connaissant peut devenir recherche en tant que détermination qui libère ce qui est en question. Le questionner a en tant que tel quelque chose dont il s'enquiert. Sont questionnés, accent aigu. Mais s'enquérir de est une certaine manière de s'enquérir auprès de. Au questionner, le verbe, outre le questionner, participe passé, appartient donc à un interrogé. Enfin, lorsqu'une question est recherche, c'est-à-dire spécifiquement théorique, il faut que le questionné soit déterminé et porté au concept. Le questionné inclut donc, à titre de proprement intentionné, le demander. Ce auprès de quoi le questionnement touche au but. Le questionnement lui-même, en tant que comportement d'un étant, celui qui questionne, a un caractère d'être propre. Un questionnement peut être accompli en tant que simple information, ou bien en tant que position de question explicite. La spécificité de cette dernière consiste en ce que le questionnement devient préalablement transparent pour lui-même du point de vue de tous les caractères constitutifs cités de la question même. Youbi!
J'imagine que c'est normal que...
C'est tout à fait normal que tu t'étouffes. C'est le but de la chose. Mais tout est là, OK? En allemand, c'est bien plus beau. Parce qu'en allemand, on se rend compte que questionner, interroger, demander, enquérir auprès de, etc., etc., c'est toujours le même verbe, F-R-A-G, fragen, en allemand. Et l'allemand fonctionne, c'est une langue à préfixe, un peu comme le français. Tu peux poser le crayon. Je pose le crayon. Je peux composer le crayon et faire un crayon composé avec un crayon de plomb. Donc, je compose. Je mets ensemble. Ce qui n'est pas la même chose que juste poser. Mais je peux imposer un crayon. C'est ce crayon-là que tu prends. C'est toujours poser. Mais selon le préfixe, ben ça n'a plus exactement la même valeur. Je pose le crayon, je t'impose un crayon, je te propose un crayon. C'est pas la même chose. Alors, tu vois, le français fonctionne de la même manière, sauf qu'en allemand, le petit préfixe peut être ôté, puis mis à l'autre bout de la phrase, juste pour compliquer les choses, pour rendre l'apprentissage de l'allemand compliqué. C'est quelqu'un qui était pervers un moment donné, qui a décidé de faire ça pour troubler les gens. C'est pas vrai, mais peut-être. Mais tu vois, l'idée, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mot fragen, questionner, puis il joue avec tous les préfixes que tu peux y mettre. Un peu comme j'ai essayé de faire avec mon crayon. Je pose le crayon, je te propose un crayon. J'impose un crayon avec lequel tu vas composer quelque chose. Mais c'est toujours l'idée de poser, mais avec des choses autour. Alors, c'est ce qu'il y a dans ce paragraphe-là. Et le traducteur, pour essayer de rendre compte de ça, parce qu'on ne peut pas en français garder le même mot tout à fait. Tu as déjà questionné, questionnant, questionné ouais, le verbe, puis questionné le participe passé. Il dit, à un moment donné, là, besoin d'aide, là. Ben, interroger, demander, s'enquérir auprès d'eux, etc., etc. C'est toujours questionner. Mais ce n'est pas la même chose. Si je te dis, je vais te faire une interrogation, je vais te faire subir un interrogatoire, est-ce que c'est la même chose que de juste te poser une question, te demander quelque chose?
Non, c'est pas la même chose.
Non, qu'est-ce qui se passe dans un interrogatoire?
Il va y avoir des questions, c'est sûr, mais ça va être pour chercher une information en particulier.
Oui, que je crois que tu me caches, parce que je t'ai posé la question, tu n'as pas répondu, donc je vais t'interroger pour avoir la réponse. Et puis, pour vraiment interroger quelqu'un, il faut les aider à dire la vérité. Et il n'y a rien comme allonger quelqu'un sur un divan, lui attachant les pieds, lui attachant les bras comme ça, et là, tu as une manivelle, tu étires la personne pour l'aider à avoir une colonne vertébrale bien, bien, bien droite. Okay? Et tu sais la réponse à telle chose, c'est pour ça que je t'interroge. Tu réponds pas? Un petit tour de manivelle? C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est 1984, George Orwell. As-tu déjà lu 1984?
Non.
C'est un très bon roman à lire pour l'introduction à la philo. Lorsqu'on sera à l'aspect politique, ça pourrait être intéressant de se mettre à lire ce roman-là, parce que c'est un roman un peu actuel, depuis 1948. Mais c'est, je crois que tu as la réponse, puis tu ne veux pas me la dire, ou tu n'arrives pas à la dire. On va t'aider. OK? Puis à travers tout ça, là, c'est presque pas là-dedans, mais le mot « question » est lié, en latin, à l'idée d'une quête. Si je te pose une question, c'est comme si je mendiais la réponse. Je tends la main, là, puis je dis « Peux-tu me donner la réponse? Je la veux, j'en ai besoin. Tu l'as, puis moi, je suis en manque. » Quêter. Mais c'est quêter au sens de tendre la main. Mais c'est aussi quêter au sens d'une quête. La quête du Saint Graal, c'est un très beau roman. Merlin et compagnie, le cycle du roi Arthur, c'est un roman médiéval dans lequel il y a la quête du Saint Graal. On part à la recherche de quelque chose. Tout questionner est un chercher. OK? Alors, tu vois, Heidegger, il prend le mot allemand, mais il connaît son latin, alors « questio », qui est à la fois la question, mais qui est aussi la quête. La quête, c'est une recherche. Il prend tout ça, puis il met ça dans une même belle phrase, enfin, même au petit paragraphe. Parce qu'il prend pour acquis, puis c'est quelque chose en philosophie qu'on peut avoir comme option, c'est de se dire, le langage, la façon dont on parle, lorsqu'on analyse ce que le langage fait et permet, le langage nous offre déjà, de manière plus ou moins déformée, ça dépend... Sur quoi? Mais déjà des pistes pour comprendre ce qui est en jeu dans ce qu'on cherche à comprendre. C'est quoi une question? Se questionner sur la question, ça va être aussi se questionner sur le sens du mot question. Qu'est-ce qui est en jeu dans le questionnement, dans le mot même? Alors, abfragen, verfragen, anfragen, befragen, etc. Question, quête, au sens de demande, puis quête, au sens de recherche. Et avec ça, c'était écouter, c'est un chercher, c'est un questionner, c'est un demander, c'est un interroger, c'est un s'enquérir auprès d'eux. Tous les éléments sont là. Sauf que là, c'est dit de manière plus compliquée. Okay? Alors, revenons, puis se dire, c'est quoi une question? Une question philosophique. Si je te demande, est-ce qu'il fait soleil dehors? Tu te tournes, tu regardes dans la fenêtre, tu dis, il y a sûrement du soleil là parce qu'il y a de la lumière, mais il y a un plafond nuageux très très bas, et on ne peut pas vraiment dire qu'aujourd'hui c'est une journée ensoleillée. Est-ce que c'est une grosse question métaphysique?
Non.
Est-ce que j'ai eu besoin de t'interroger pour que tu répondes à ça?
Non plus.
Puis on peut regarder tous les deux, puis on voit bien que même lui, il serait d'accord avec nous autres, c'est pas si ensoleillé que ça. Même si du point de vue scientifique, le soleil est là comme la même manière que s'il n'y avait pas de plafond nuageux. Si on va en avion au-dessus du plafond de nuage, ben on aurait une belle journée ensoleillée. Ben on n'a pas les moyens de prendre l'avion aujourd'hui et d'aller au-dessus du plafond de nuage. On va oublier ça. Si je demande, monsieur, quel est votre nom?
Joël.
Mais est-ce que c'est une question métaphysique?
Non plus.
Sauf que si c'est un méchant terroriste, et je l'ai arrêté, et je le questionne, quel est votre nom? Est-ce qu'il va me dire son vrai nom tout de suite?
Non.
Il va falloir l'interroger. On sait qu'il peut nous le dire. On commence par être gentil, on lui demande quel est votre nom, puis là, il dit n'importe quoi, il nous dit qu'il fait soleil et tout, et puis, mais il ne répond pas à notre question. Alors déjà, c'est qu'on touche à quelque chose d'autre. C'est plus exactement ce qui fait soleil. Une question philosophique, ce serait quoi?
Une question philosophique. Une question philosophique, ça va s'interroger sur les choses qui font partie de notre vie, mais plus profondément que simplement demander le nom ou la température.
Mm-hmm. Donc, si on disait, c'est le genre de question qui porte sur ce pourquoi on n'a pas une réponse toute faite tout de suite.
Ouais.
On pourrait dire ça comme ça. Que c'est pas évident si je te demande quelle est la nature d'une chaise ou qu'est-ce que c'est que la nature humaine.
Ça fait partie des questions plus philosophiques.
Plus philosophiques. Pas qu'il n'y a pas de réponse. Pas qu'on ne peut pas en avoir.
Mais il va falloir se poser d'autres questions.
Il va falloir se poser des questions. Et puis c'est là où le parcours qui fait, je vais rechercher, puis je vais questionner, je vais aller m'enquérir auprès d'eux, puis je vais me rendre compte que j'ai quand même une idée vague, je sais qu'une chaise, c'est pas une table. Puis lorsque je m'assois sur une table, ma mère me dit, Maxime, c'est pas une chaise, c'est pas faite pour s'asseoir, c'est une table. OK, donc il y a peut-être un lien avec s'asseoir, puis je vais devoir travailler auprès de la table, de la chaise, pour essayer de comprendre ce que c'est que cette affaire-là. Puis éventuellement, je vais peut-être arriver à quelque chose. Donc, une question philosophique, on pourrait se dire, c'est une question qui porte sur une question qu'on a par rapport à ce qu'on vit, ce dont on fait l'expérience, pour lequel, ou il n'y a pas de réponse toute faite, ou bien, les réponses toutes faites, on se dit, non, ça ne va pas. Ou bien, c'est des questions qui sont soulevées par des drôles de paradoxes. Je vais te donner un paradoxe philosophique, c'est un vieux paradoxe philosophique. Est-ce que tu peux te rendre à la porte pour ouvrir la porte?
Oui.
Oui, bien sûr. Peux-tu me le démontrer, s'il te plaît?
Oui.
Oui, merci. Lui, il sait où je m'en vais. Ah oui, t'es arrivé à la porte, t'étais capable de l'ouvrir. OK. Peux-tu revenir t'asseoir? Alors, on est en train de faire de l'initiation. Alors, tu m'as démontré facilement, en te levant, en prenant la poignée de la porte, tournant la porte, la poignée, t'ouvres la porte, puis c'est fait. OK. Maintenant, on va essayer de réfléchir à ce que ça veut dire se rendre à la porte.
Ça implique des actions.
Des actions, oui. Quelle action, par exemple?
Se lever, marcher.
Marcher, OK, marchons. Alors, allons-y avec marcher. Alors, tu te lèves, tu marches. Tu vas être d'accord avec moi que pour te rendre à la porte, il faut premièrement que tu marches la moitié de la distance qui t'amène jusqu'à la porte. Alors, tu as marché la moitié de la distance. Mettons qu'on t'arrête là. Tu vas être d'accord avec moi que pour te rendre à la porte, il reste la moitié de la distance à faire.
Oui.
Ben, dans un premier temps, lorsque tu recommences à marcher, il faut que tu fasses, que tu franchisses la première moitié du chemin qui reste. D'accord?
Oui.
Donc, tu ne pourras jamais te rendre à la porte.
Si on fait juste la moitié.
Oui, on n'arrivera pas. Il va toujours te rester une moitié. C'est tout à fait logique, non?
Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi je serais rendu à la porte?
Exactement. On vient d'avoir une question philosophique. Par un paradoxe, on fait toutes sortes d'actions. On se lève, on va à la porte et tout. Puis là, après ça, on s'assoit puis on se dit, ben, je suis un philosophe ou un apprenti philosophe et puis je vais essayer de comprendre c'est quoi le mouvement qui permet que je me rende à la porte. Ben, c'est premièrement faire la moitié, c'est logique. Puis pour ça, c'est faire une moitié de la moitié, puis une moitié de la moitié de la moitié, puis une autre moitié de la moitié de la moitié de la moitié de la moitié. Il va toujours rester une petite moitié de moitié. J'arriverai jamais à la porte. Oui, mais je l'ai ouvert la porte, je suis allé, je l'ai touché, puis si je l'ai pas ouvert, je me suis rentré le nez dedans. Les deux sont vrais. T'es vraiment allé jusqu'à la porte, puis l'as ouvert. Puis c'est vrai que si on pose la question, puis on se met à essayer de réfléchir au mouvement, comme j'ai commencé à te le faire avec franchir la moitié, puis la moitié, puis la moitié, c'est vrai qu'on n'y arrivera jamais mathématiquement. Ça va te prendre une infinité de vie, puis tu n'arriveras toujours jamais, ou presque, à la porte. Puis là, tu souris, tu dis, mais non, je dis, dans la réalité, là, je suis capable d'y aller. Oui, mais parce que tu essaies de le penser, tu n'y arrives pas. C'est donc, bien sûr, on peut y aller. Oh, oui, ok, explique-moi comment tu fais pour y aller. Puis si je te donne cette idée-là de la marche qui ne se terminera jamais, là, tu es obligé de dire, ok, comment je vais y expliquer ça pour rendre compréhensible que non seulement qu'il est possible de penser comme il faut se rendre à la porte puis l'ouvrir. Alors que la première façon dont je t'ai proposé la chose, c'est clair que tu n'y arriveras jamais. Alors là, il doit y avoir une réponse à ça, à quelque part. Mais c'est pas clair, c'est pas évident. Alors c'est là où questionner, ça devient chercher, ça devient rechercher, un s'enquérir d'eux, un interroger, un demander. Et puis, c'est une question qu'il faut que je travaille, puis que si je veux finir par y répondre, il faut que ce soit un travail sur moi. Je dois rendre transparent à moi-même c'est quoi les présupposés que j'ai lorsque j'essaie de comprendre. Donc, le questionnement sur quelque chose devient aussi un questionnement sur comment est-ce que je pense, puis pourquoi je l'aborde comme ça. Donc, ça ne sera pas juste la question philosophique. C'est pas juste la question qui t'envoie pour essayer de connaître la nature de la chaise puis comment tu te rends là. C'est aussi une question qui va te renvoyer sur pourquoi est-ce que je suis pris avec ce paradoxe-là? Comment est-ce que j'ai pensé? Puis qu'est-ce que j'ai pris pour acquis, sans me questionner, comme étant vrai, pour pouvoir embarquer là-dedans? Donc, la question philosophique, ça va être la question qui, oui, cherche une réponse à quelque chose à l'extérieur du monde. Est-ce que je me rends ou pas à la porte? Est-ce que je peux comprendre ça ou pas? C'est quoi la nature de la chaise? Puis pourquoi il faut pas, pourquoi il faut respecter les personnes? Hein? Pourquoi? Pas évident. Parce qu'il y a plein de gens qui ne respectent pas. Puis ils s'en tirent habituellement mieux que toi puis moi. Alors, encore là, la réponse n'a pas été aussi obvie. Ben, pour répondre à une question philosophique sur quelque chose, je suis aussi amené, puis c'était la fin du paragraphe, à me questionner préalablement sur rendre clair à moi-même c'est quoi mes présupposés, c'est quoi mes préjugés, pourquoi est-ce que je t'ai fait commencer par la moitié, de la moitié, de la moitié, puis j'ai dit, Joël connaît le truc, on fait tout faire ça en première année à quelqu'un, c'est drôle, ça les empêche de dormir pendant 2-3 jours, mais c'est qu'on a toute une série de préjugés, de présupposés. Nous, on est vieux, puis on fait de la philo depuis longtemps. Alors, nous, c'est clair dans notre tête pourquoi je peux te poser la question comme ça, puis ça rend impossible de comprendre, d'arriver à la porte. Mais ça, je te le dis pas, là. Mais t'as accepté avec moi de faire moitié par moitié, puis t'es d'accord que tu n'y arriveras pas, intellectuellement. Sauf que tu peux te dire, wow, 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 là. Je l'ouvre la porte, monsieur. Je suis capable. Je vous l'ai démontré. OK. Qu'est-ce que vous présupposez dans votre façon d'aborder le mouvement, auquel je n'ai pas réfléchi encore, mais je veux comprendre pourquoi vous pensez que le mouvement, c'est l'addition de moments comme ça. Puis là, tu te dis, mais est-ce que c'est comme ça, vraiment, le mouvement, que ça se comprend? Puis là, tu peux dire, oui, si et seulement si, on pense comme ça.
Donc, les questions philosophiques amènent à se poser plein de nouvelles questions qui ont un rapport pas tout à fait très près de la question de départ.
Exactement, mais ces questions-là sont des questions qu'on doit se poser si on veut arriver à répondre à la question de départ.
Ouais.
OK, alors, dans l'histoire de la philo, on verra ça la prochaine fois un peu plus. Il y a des gens qui vont dire, commençons par questionner sur ce qui est là. Puis en questionnant sur ce qui est là, ça va nous aider à revenir sur nos préjugés et tout. Puis t'en as d'autres qui vont dire, mon bon ami Descartes, au 17e siècle, première règle, commencez par connaître l'esprit et comment l'esprit pense. Après ça, vous vous poserez des questions sur dehors. Parce qu'une fois que vous allez avoir compris comment l'esprit marche, ça va être, vous allez devenir transparent à vous-même, ça va être beaucoup plus facile de poser les bonnes questions. Parce qu'autrement, vous risquez de vous empêtrer dans des mauvaises questions, puis de ne pas revenir sur vous-même, et puis... voilà. Mais donc, tu vas avoir des philosophes qui vont dire, il faut faire une critique de ce que je suis, puis de comment je pense, avant de penser. Puis tu as un bon ami à Joël, qui s'appelle Hegel, un Allemand du 19e siècle, qui dit, non, non, on se plonge dans les questions qui sont là, et c'est à partir de ça que on va tout clarifier, à la fois sur moi-même et sur le réel. Donc, il va y avoir des choix. C'est des philosophes qui vont préférer une affaire, puis d'autres qui vont préférer l'autre. Du point de vue de l'initiation, d'ici une couple de semaines, une des questions que tu vas te poser puis qu'on va te poser, ça va être de dire « Es-tu plus... » Je commence par me poser les questions parce que « Wow! Hey, j'ai jamais vu ça. C'est intriguant. C'est intéressant. » Cossé, ça vient faire quoi? Et tout. Ou, non, ben, bonne question ça, mais je vais mettre ça, attendez, là, je vais travailler, qu'est-ce que c'est que moi pensant? Qu'est-ce que c'est penser, puis comment ça marche? Bon, Joël a sûrement choisi son camp maintenant, moi j'ai choisi le mien il y a fort longtemps, parce que, à quelque part, ça correspond à notre façon d'être au monde. OK, alors ce qu'il va falloir que tu découvres, c'est toi-même, comme entrant en philosophie, est-ce que tu y entres plutôt tourné vers toi-même puis comment tu penses, ou tourné vers des questions qui vont t'aider à penser comment tu penses? Aujourd'hui, je ne te pose même pas la question. Mais je te dis, ça va être une question qui va devenir importante à un moment donné. OK?
Oui.
Alors, on va arrêter là aujourd'hui, avec ça. Et... ça va être beaucoup comme ça qu'on va fonctionner, soit sur des textes, soit sur... on va m'ouvrir la porte, viens te rasseoir, puis là, pensons à ouvrir la porte, des choses comme ça. Alors, puis on va donner l'information. M. Heidegger a écrit cette suite de phrases incompréhensibles. Puis, après que tu aies passé... lis-le une couple de fois cette semaine, après avoir fait ton devoir. Et puis, la semaine prochaine, selon mon horaire, peut-être que... tu vas t'asseoir avec lui, puis tu vas y aller morceau par morceau. OK?
Oui.
Et puis on va fonctionner comme ça pas mal tout le temps. Puis si à travers tout ça, tu as des questions qui t'empêchent de dormir ou qui t'angoissent, tu nous le dis, on arrête, on traite ça, puis on avance. OK? C'est l'avantage d'être... puis il ne sera pas toujours là, puis moi non plus, mais c'est ton cours. C'est pour toi. Puis on veut que ce soit une bonne expérience, une bonne initiation. Alors, si tu as des questions, tu ne te gênes pas. S'il faut reprendre un autre exemple, on va trouver autre chose. Mais il faut que tu sois bien à l'aise avec ça.
Oui.
C'est bon?
Oui, tout à fait.
Good. Merci.